Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. À quelques jours de la fête de Noël, nous sommes très heureux d'accueillir notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, et comme d'habitude, nous l'interrogerons à deux voix avec Olivier Drapé. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes le délégué épiscopal à l'information et à la communication. Monseigneur Haillé, bonjour.
Bonjour.
Les fêtes de Noël approchent et nous allons commencer par faire un petit retour en arrière et notamment sur l'actualité qui a mobilisé, j'allais dire, le diocèse et vous-même au long des dernières semaines. Olivier Drapé.
Oui, en effet, les dernières semaines ont été marquées dans le diocèse par un certain nombre de controverses, de discussions qui ont été largement relayées et même finalement amorcées par la presse locale et par la presse nationale également, à propos de certains choix ou des orientations qui ont été prises au niveau de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Bayonne. Et plus particulièrement sur des points un petit peu délicats que sont le fait de souhaiter réserver le service de l'autel aux garçons, en écartant entre guillemets les filles du service de l'autel, mais aussi des controverses qui ont pu concerner à la fois le statut ou la place réservée à la messe en basque, mais aussi l'étonnement de certaines personnes, de certains laïcs, de certains catholiques à propos de la messe en latin. Alors, Monseigneur, vous n'avez pas souhaité prendre position à chaud au moment où effectivement la presse s'était emparée de ces questions-là. Mais comment vous positionnez-vous sur ces questions ?
Alors, c'est vrai que j'ai quand même trouvé, dans un premier temps, que le procédé choisi par quelques fidèles de nos paroisses de Bayonne d'interpeller les médias locaux pour faire part de leur mécontentement sur tel ou tel point que vous venez d'inventorier, que ce procédé était un peu regrettable. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu moi-même donner mon point de vue sur des questions qui, somme toute, concernent la vie interne de notre Église, prendre la parole par voie de presse. Il me semble qu'aujourd'hui, après quelques semaines, je peux revenir dessus pour dire une parole, car je pense qu'elle est attendue, que je n'ai pas voulu non plus dire trop tôt du fait que j'étais en pleine reconstitution du conseil presbytéral et je voulais avoir réuni, ce qui s'est fait début décembre, le conseil presbytéral reconstitué pour entendre aussi les prêtres sur la question et leur dire aussi mon point de vue sur tous ces points que vous venez de cibler. Je crois que le procédé est un peu regrettable parce que il expose sur la place publique des divisions internes qui portent somme toute sur des questions qui n'entament ni la foi et ni la morale et qui souvent sont rapportées à partir de rumeurs qui ne donnent pas d'ailleurs toujours toute la vérité sur chacun des faits. Je crois aussi que c'est regrettable parce que ça risque de donner aussi une vision un peu réductrice de notre Église diocésaine et de passer sous silence, par conséquent, des dynamismes, des vitalités dont je suis témoin, quant à moi, chaque dimanche en visitant des paroisses, que ce soit dans le Pays basque, que ce soit dans le Béarn. Et j'en profite précisément pour dire que notre Église dépasse infiniment ces controverses, qui doivent être pour autant entendues, hein, entendez-moi bien, justement. Mmh. Et quand je relate les dernières visites faites pendant ces dernières semaines, je pense à l'ouverture de la chapelle d'adoration perpétuelle à Pau à l'église Sainte-Thérèse, de la paroisse de la Sainte Famille. Il y avait quand même plus de 400 personnes qui étaient là et tous les âges, tous les visages. Et aujourd'hui, comme à Bayonne, 300 personnes sont engagées fermement à une heure hebdomadaire d'adoration, comme lieu de communion, je crois, profonde, en profondeur, et comme source de mission. Hein, l'Eucharistie, comme le disait le Concile, est vraiment la source de la mission de l'Église. Et je sens bien qu'il ne s'agit pas de s'évader du monde, mais au contraire, de se ressourcer pour un meilleur engagement et un meilleur témoignage dans le monde. Je pense aussi à la fête paroissiale de Bidache pour la consécration du nouvel autel qui a fait grande impression sur moi avec un peuple rassemblé dans la joie, beaucoup de jeunes et et aussi la fête paroissiale de Monin, au Béarn, où là aussi j'ai vu une église qui est une des plus grandes du diocèse, qui était archi-comble, avec beaucoup de jeunes, et un repas festif avec tous les élus et 150 paroissiens. Bon. Je pense aussi à Bayonne, à la fête de l'Immaculée Conception, qui était un peu inédite, hein, en soir de semaine, le 8 décembre, où la cathédrale était remplie et où nous sommes partis joyeusement en procession au flambeau, en portant la statue de Notre-Dame de Lourdes jusqu'à Saint-André, où les gens ont remarqué aussi que la population, le peuple chrétien avait tous les âges et tous les visages. Donc tout ça, c'est quand même des choses importantes qui n'ont pas été relayées par la presse. Et qui pourtant font partie intégrante de l'Église diocésaine. Voilà, donc moi je dirais, surtout, toutes ces inquiétudes et ces souffrances qui ont été médiatisées et qu'il me faut entendre, surtout qu'elles ne détournent pas notre attention des épreuves du monde qui nous entourent et de l'urgence aussi de notre mission, qui reste celle d'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut à tous.
Néanmoins, Monseigneur, quelle est votre position sur cette polémique, en tout cas cette affaire ou cette controverse des filles enfants de cœur? Comment percevez-vous ce problème?
J'y reviens rapidement, comme je l'ai fait donc devant les prêtres au conseil presbytéral. D'abord, je crois que ce n'est pas un procès tout à fait juste qui a été fait au curé de Notre-Dame de l'Assomption Bayonne, donc l'abbé François de Mesmet. De fait, si vous fréquentez la messe de 11h à Saint-André, qui se remplit d'ailleurs de familles, de jeunes, d'enfants, vous verrez qu'il y a un groupe de garçons qui servent à l'autel dans la proximité immédiate du prêtre, et qu'il y a aussi un groupe de filles qui portent d'ailleurs elles-mêmes un costume distinctif, et qui sont, c'est vrai, davantage au service de l'assemblée, mais qui proclament la parole, les lectures, qui font la procession des offrandes au nom de l'Assemblée pour la participation du peuple des fidèles à l'offrande du sacrifice eucharistique, qui guident les fidèles pour la procession de la communion et qui accomplissent d'autres petites charges au service de l'Assemblée liturgique. Mais si vous voulez, puisque de nombreuses voix ont invoqué à l'heure de ces controverses les textes de Rome, je pense à un article de la Croix qui s'est fait l'écho de cette controverse de Bayonne, mais qui a aussi repris les textes officiels du magistère de l'Église, en particulier de la Congrégation pour le culte divin. Je me permets de rappeler quand même que s'il n'y a pas d'opposition de principe à la participation des femmes et des filles au service de la liturgie, cela reste soumis au jugement et à l'autorisation de l'évêque pour son diocèse. Restant sauve, et cela est bien précisé par les textes, l'obligation de constituer des groupes de garçons servant d'autel qui ont, je cite le texte, permis le développement encourageant des vocations sacerdotales. Et vous vous rappelez peut-être de l'une de ses dernières lettres aux prêtres en 2004 de Jean-Paul II, qui appelait ce groupe d'enfants servant de messe un pré-séminaire, c'est dire combien dans la tradition de l'Église ça a toujours été lié, à cause de la proximité du prêtre qui célèbre à l'autel, aux vocations sacerdotales. Et restant sauve aussi la liberté du curé, quand bien même l'évêque aurait formellement autorisé cette chose, de constituer un groupe de servants de messe garçons. Ce qui m'importe, moi, dans tout ça, c'est qu'en effet, les petites filles, elles aussi, puissent avoir une participation, et une participation spécifique à la liturgie. Mais attention à ne pas se laisser piéger par ce type de débat, et de ne pas transposer des critères au fond psychologiques et sociologiques qui régissent l'évolution des sociétés, quel qu'en soit le bien fondé par ailleurs, au fonctionnement de l'Église elle-même, qui fait appel à d'autres critères parce qu'elle est d'un autre ordre, qui sont tirés de la foi et de la tradition. Et ici, c'est le lieu d'abord d'un discernement spirituel, comme disait Monseigneur d'Agens, pour évaluer la situation de l'Église aujourd'hui, à la dernière assemblée plénière, un discernement qui peut bien échapper au monde. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de lui en faire grief. Mais je mets quand même au défi quiconque prétendra y voir un principe de discrimination, comme cela a été dit de manière tout à fait hâtive. Pour donner quelques exemples, sait-on de quand date, en France et en Europe, l'interdiction faite aux femmes d'accéder à l'université? Cela date de 1592, c'est-à-dire l'époque de la Renaissance, où la société commence précisément à s'émanciper de la tutelle de l'Église, alors que l'on entre effectivement dans ce que l'on appelle l'époque moderne. Et nul n'ignore l'histoire culturelle entre Héloïse et Abélard au Moyen-Âge, ni que la mère abbesse qui dirige à la fois un monastère d'hommes et un monastère de femmes à Fontevraud, évidemment, est une femme. J'ajouterai, si vous le permettez, pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce débat, que si nous nous situons ici, dans un grand débat anthropologique, à l'heure où l'on assiste à la diffusion massive de cette fameuse théorie du gender, pour qui toute différenciation entre l'homme et la femme est une discrimination. Alors là, je réponds non à la différence interdite. L'anthropologie judéo-chrétienne est fondée, comme on le sait, dans la différence entre l'homme et la femme. Différenciation qui les affecte dans leur personnalité profonde et qui n'entame pas leur égalité fondamentale en dignité, si vous voulez. Mais au contraire, je dirais qu'il la promeut à travers une complémentarité qui est source d'enrichissement mutuel, alors qu'on voit bien que la théorie du gender conduira à un appauvrissement culturel, porteuse en effet de graves confusions, finalement de désordre et peut-être même d'injustice. Voyez, c'est un enjeu anthropologique qu'il nous faut bien garder à l'esprit et prendre très au sérieux. Alors pour conclure, je dirais, pour être juste, que cette autorisation demandée par les textes de Rome n'a pas été donnée par mon prédécesseur, mais je m'empresse de dire aussitôt que je ne vais pas l'interdire. Hein. Je veux seulement donner des éléments qui permettent à chacun un discernement spirituel et pastoral.
Monseigneur Hayet, par rapport à la communion donnée par les femmes lors des Eucharisties ou la communion portée aux malades,
mais c'est évident que les femmes peuvent porter la communion malade et qu'elles peuvent aussi donner la communion, mais c'est laissé, si vous voulez, l'opportunité en est laissée au curé. Mais c'est évident que c'est une chose qui se fait et qui continue de se faire, je pense. Mais
expliquez-nous pourquoi certains prêtres refusent ou décident de ne plus accorder ce service aux femmes.
Là, du coup, je n'ai pas d'éléments là-dessus, mais ce que je sais, c'est qu'à Bayonne, les femmes ne sont pas exclues de la distribution de la communion aux malades, ça sûrement pas. Ça, je pense que ça, c'est une, à mon avis, me semble que c'est une contre-vérité.
Une autre polémique, ça a été le refus d'ouvrir une église pour un concert pour les Ikastola.
Alors là, je n'ai pas d'éléments non plus particuliers. C'est une demande qui a été faite au curé d'une paroisse. Je m'en suis enquis, en effet, de savoir pour quelles raisons. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait essentiellement d'une question de calendrier, de demandes assez nombreuses qui étaient faites à ce moment-là, et d'un manque de structure d'accueil, si vous voulez, de personnel en tout cas, pour accueillir. Il me semble avoir lu que les explications ont été données de part et d'autre, et que la polémique semble close aujourd'hui.
Monseigneur Hayet, vous avez également répondu à un entretien dans le journal Sud-Ouest où on vous pose la question de la messe en basque, du changement d'horaire de la messe en basque sur l'église Saint-André de Bayonne. Vous avez utilisé le mot communautariste qui a pu choquer certains.
Oui, tout à fait. Alors là, je dois avouer que ce mot que j'ai employé, je n'avais pas apprécié certainement la connotation qu'il pouvait avoir ici. D'abord, je m'empresse de préciser que j'ai parlé de risque de communautarisme dans l'absolu, mais je n'ai certainement pas appliqué ce mot à la situation présente. La preuve en est que j'ai souhaité que cette messe en basque soit maintenue à Saint-André, car elle a toute sa place dans le BAB, hein, et en particulier dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Bayonne, et j'ai souhaité même que qu'il y ait un service pastoral, une attention pastorale qui soit apportée à cette messe en basque. Je crois que c'est un mauvais procès qui m'est fait ici, parce que depuis que je suis là, où j'ai reçu un très bon accueil de la communauté basque, si je puis dire, hein, dans ce pays basque, dans toutes les paroisses dans lesquelles je vais très volontiers, j'ai quand même suffisamment dit et répété mon intérêt pour la langue basque, véhicule d'une culture profondément enracinée dans la foi, et je célèbre très habituellement lorsque je vais dans une paroisse du Pays Basque intérieur, tout ou partie de la messe en basque, avec beaucoup de joie d'ailleurs, parce que c'est une langue que j'aime, je crois arriver à la prononcer à peu près bien, parce que j'ai une certaine oreille, et ça me donne le désir d'ailleurs de l'apprendre, parce qu'elle est belle, et je l'ai suffisamment dit et répété pour qu'on ne fasse pas le procès de prendre de front les Basques, si je puis dire. Bon, pour revenir à cette messe en basque de Saint-André, il ne m'appartient pas, quant à moi, d'en décider des horaires. Je l'ai déjà dit, et ça, il faut en discuter certainement avec le curé. J'ai quand même dit et affirmé le 17 juillet dernier, en célébrant cette messe complètement en basque, à Saint-André, d'abord que cette messe avait toute sa place, parce que les bascophones, et en particulier ceux dont c'est la langue maternelle, ont droit, dans l'esprit de Pentecôte, à prier et à louer Dieu dans leur langue. Aussi parce que ceux qui ne sont pas forcément bascophones, qui ne comprennent pas nécessairement la messe basque, ont le droit de participer à cette messe, parce que souvent ils sont saisis par la beauté des chants qui, de fait, élèvent l'âme. Et j'ai ajouté qu'elle avait toute sa place pour pouvoir rejoindre des personnes qui se réapproprient aujourd'hui la culture et la langue basque en dehors de l'Église. C'est pourquoi j'ai dit que l'Église n'avait pas vocation à conserver en soi le patrimoine de la langue, mais à faire vivre une langue pour mieux annoncer l'Évangile. Il reste qu'une demande m'avait été formulée par écrit par un groupe de personnes qui se sont présentées à moi comme porte-parole des fidèles de la messe en basque de Saint-André, avec qui d'ailleurs j'entretiens de très bonnes relations. Que l'église Saint-André soit déclarée église des Basques. C'est là que j'ai dit que ça n'était pas juste. Et c'est là que j'ai dit qu'il pourrait y avoir là un risque de communautarisme. Mais je m'empresse de dire qu'il ne s'applique pas à la situation présente, parce qu'il est entendu pour la plupart des fidèles qui sont là que cette messe a toute sa place au sein d'une paroisse, d'un diocèse, dont la koiné, comme on disait dans l'Église primitive, la langue commune de tous, pour nous est le français. Mais ça n'éclipse pas du tout l'importance et la place de la langue basque et de la messe en basque à Saint-André.
Alors, signalons pour ceux qui nous écoutent que cette émission est enregistrée le jeudi 17 décembre, et ce jeudi 17 décembre, le journal La Croix publie un communiqué intitulé « Des prêtres basques s'opposent à leur nouvel évêque ». Rassurez-vous, il ne s'agit pas de l'évêque de Bayonne, mais du nouvel évêque qui serait installé début janvier à Saint-Sébastien, en Guipuscoa. Sur 110 prêtres du diocèse de Guipuscoa, 85 refusent la nomination de ce nouvel évêque. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je ne crois pas qu'il la refuse, il la conteste, dirons-nous. Et ils expriment leur mécontentement. Je ne le comprends pas bien, d'abord parce que je crois que cet évêque, en plus, est un prêtre basque, qui est du diocèse de Saint-Sébastien, originaire, qui a été curé pendant plusieurs années dans ce diocèse, et qui venait d'être nommé évêque de Palencia, je crois. Moi j'estime, si vous voulez, dans cette affaire-là, que cet évêque est nommé par le pape. Ça fait partie, j'allais dire, de la constitution de l'Église, que les évêques successeurs des apôtres soient nommés par le successeur de Pierre pour être en communion avec Pierre et conduire l'Église, et être garant de cette communion d'un peuple de fidèles, son clergé est fidèle, hein, laïque, avec le pape dans l'Église universelle. Alors, je ne sais pas ce qui lui est reproché. Ce que je sais, c'est en effet qu'il y a eu un communiqué qui exprime le mécontentement et la contestation d'un clergé. Et puis d'autre part, je sais que le peuple des fidèles s'est aussi massivement mobilisé pour dire combien ils étaient heureux d'accueillir ce nouvel évêque. Donc vous voyez, il faut aussi raison garder, voir un petit peu dans les semaines qui viennent comment tout ça va se débrouiller. Je ne pense pas que la presse nous dise les choses de manière très suffisamment précise. La question doit être assez complexe, et elle est toujours simplifiée à outrance par les médias qui, de fait, ne connaissent pas toujours les rouages de l'Église. Et alors, on dit, je crois, qu'il aurait refusé Vatican II, mais ça, c'est pas sérieux. Hein. C'est évidemment pas sérieux. De quoi s'agit-il quand on parle d'abord de Vatican II ? Alors, on dit qu'il est ultra-conservateur parce que c'est un homme qui est nommé par le pape, qui a la réputation d'être conservateur. Pour moi, le pape pape. C'est le pape légitime, hein, qui était élu par une grande majorité, au moins les 2/3, comme vous le savez, des cardinaux du monde entier. Donc tout ça n'est pas sérieux. Et si la presse nous rapporte les choses de cette manière-là, la manière dont la presse nous le rapporte n'est pas sérieuse.
Vous serez à Saint-Sébastien pour la messe d'installation de Mgr Munilla ?
Bien sûr que je serai à Saint-Sébastien pour deux raisons. D'abord parce que c'est un diocèse limitrophe au diocèse de Bayonne, et donc nous sommes engagés dans une collégialité épiscopale, dans une fraternité épiscopale, et en plus, parce que je suis dans le Pays Basque du Nord, et lui se trouve dans le Pays Basque du Sud, donc il y a des liens de plus entre nous.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Mgr Marc Hayé.
Mgr Hayé, si vous le voulez bien, nous allons aborder l'actualité nationale. Olivier Drappé.
Oui, l'actualité nationale et d'ailleurs également l'actualité internationale qui peut avoir des répercussions importantes au Pays Basque en particulier. Un point qui retient mon attention, c'est le résultat de la votation, c'est-à-dire du référendum par lequel récemment les Suisses se sont opposés à plus de 57%, je crois, à la construction de minarets dans leur pays. Cette décision a fait couler beaucoup d'encre également. Mais comment, d'après vous, Monseigneur, un chrétien peut-il se positionner sur cette question ?
Alors c'est difficile. D'abord, il y a une première question de principe que je dirais. Je crois qu'il faut jouer le jeu de la démocratie. Voyez ? En démocratie, quand un peuple se prononce à majorité, c'est le jeu de la démocratie. Alors, faut pas être d'un côté défenseur de démocratie et puis contester le vote populaire, hein, sachant que vous savez combien la Suisse est très attentive à ses référendums locaux et fédéraux et qu'il y a un jeu démocratique qui est très propre, hein, à la Confédération helvétique, même dans son histoire, et en particulier qu'il y aurait beaucoup d'exemples et beaucoup de leçons à donner à beaucoup de démocraties en Europe et dans le monde. La deuxième chose, quand il s'agit de cette affaire des mosquées et des minarets plus particulièrement, d'abord il faut rappeler le principe de la liberté religieuse. C'est évident que toute religion a le droit à ses lieux de prière. Et c'est pourquoi on ne peut pas s'opposer à ce qu'il y ait des lieux de prière pour les musulmans qui constituent souvent des communautés importantes dans nos pays occidentaux et pour le coup en particulier en Suisse.
C'est un point d'ailleurs important de l'enseignement du Concile Vatican II.
Tout à fait, hein, tout à fait. C'est Nostra Aetate, hein, qui est le décret, non, Dignitatis Humanae, pardon, qui est le décret du Concile sur la déclaration du Concile sur la liberté religieuse. J'ajoute aussitôt d'ailleurs que le pape et l'Église catholique a toujours demandé aussi la réciprocité et qu'on n'est pas parvenu à une réciprocité, que dans la plupart des États musulmans, les chrétiens n'ont pas autant de liberté pour construire et habiter des lieux de culte pour leur propre foi que dans nos pays occidentaux où nous ouvrons volontiers ce droit aux fidèles musulmans. Ensuite, la question du minaret. Je crois avoir entendu, et ce qui est vrai, que les minarets ne sont pas essentiels et sont pas forcément nécessaires à la construction de mosquées. Ensuite, je dirais, il y a une question qui peut être posée. Je ne donne pas de réponse. Je me contente de poser la question, qui est de dire, dans l'islam, la religion et la politique sont imbriquées. Donc, dès lors, il est probable qu'un lieu de culte n'est pas seulement un lieu de culte, et qu'elle est aussi un lieu de manifestation d'une volonté qui peut être aussi politique. Et peut-être que la construction de minarets pourrait contrevenir, si vous voulez, à un principe de laïcité et un principe, je dirais, de séparation entre le religieux et le politique. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, je ne veux pas rentrer dans un débat qui me dépasse infiniment, mais voilà quelques éléments, en tout cas, pour un discernement.
Un autre point qui concerne l'actualité nationale, là aussi beaucoup de discussions autour de ce problème, le débat sur le grand débat sur l'identité nationale qui monopolise aussi une bonne partie de la presse, des médias, du monde politique depuis un certain temps. Ce débat fait l'objet aussi de réunions dans le diocèse et à Bayonne, réunion un peu agitée d'ailleurs il y a quelques jours à Bayonne. Alors il est difficile peut-être d'apprécier les véritables enjeux d'un tel débat et puis surtout sur quoi il débouchera concrètement, mais pouvez-vous nous donner votre point de vue sur ce débat concernant l'identité nationale ?
Alors qu'est-ce que ça veut dire identité nationale ? C'est-à-dire sur quoi repose-t-elle ? Si elle repose sur des principes qui pourraient somme toute demeurer artificiels parce que récents dans l'histoire, une sorte de consensus sur des valeurs républicaines, c'est une chose. Mais à mon avis, l'identité nationale est fondée dans des réalités plus profondes, qui sont aussi des particularités culturelles, qui ne peuvent pas faire en tout cas l'économie de particularités culturelles propres aux diverses régions bien typées qui constituent notre unité nationale, si vous voulez. La culture bretonne, la culture basque, puisque nous en parlions il y a quelques instants, ont tout à fait le droit d'exister dans une communauté nationale qui se retrouve sur des intérêts plus qui dépassent les particularités régionales. En même temps, je dirais que ce qui fait l'unité nationale en France, qui réunit en mosaïque, si vous voulez, ces particularités régionales, ce ne sont pas d'abord des valeurs républicaines qui définissent un mode de vivre ensemble dans une étape donnée de notre histoire. Mais ce sont des racines plus profondes, et je dirais ce sont des racines de civilisation. Ce sont des racines, disons le mot, chrétienne. Donc je pense que si on veut parler d'identité nationale, retrouvons en effet nos racines communes qui font que tout en étant différents et nous enrichissant mutuellement de nos différences culturelles, nous pouvons prétendre à vivre dans une certaine unité. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, cette unité nationale ne peut pas être fermée aux autres cultures qui nous seraient plus étrangères. Et je pense que la question se pose en effet aujourd'hui avec ces populations d'immigrés, en particulier venant du Maghreb et donc d'une autre culture qui est celle de l'islam, mais qui voudra dire que ceux que nous accueillons doivent être dans le grand respect de ce qui fait notre identité nationale, et c'est-à-dire donc dans le grand respect de nos racines culturelles chrétiennes.
Un autre point d'actualité, c'est le sommet de Copenhague. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne savons pas au juste quelles seront les mesures ou les décisions que les États du monde, puisque pratiquement tous les États sont représentés dans ce sommet international. Le pape Benoît XVI a choisi comme thème pour la Journée mondiale de la paix du 1er janvier « Si tu veux la paix, protège la création ». Alors, vous savez que certains médias surnomment le pape vert, pour la force de son engagement, pour le respect et la sauvegarde de la création. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à ce sommet de Copenhague et par rapport à ces questions sur l'environnement, la sauvegarde de l'environnement ?
Oui, alors ça fait donc un certain nombre d'années, de décennies même, que le magistère de l'Église catholique se prononce sur ce que Jean-Paul II appelait la crise écologique. Et en effet, qui nous prépare des catastrophes écologiques au niveau de notre environnement. Que cela vienne de cycles naturels, qu'on ne peut pas complètement évacuer, que cela vienne, et ça c'est certain, des hommes et de cette, en particulier, émission de gaz à effet de serre qui provoque des déséquilibres au niveau de la planète et qui conduisent à des drames humains. Et je dirais encore à des migrations de populations qui augmenteront encore les crises sociales et économiques que nous connaissons déjà, en particulier dans les pays dits riches ou dans les pays émergents. Donc c'est vrai que le pape Benoît XVI, particulièrement depuis un peu plus de 4 ans de pontificat, ne cesse d'alerter les gouvernants et nos contemporains sur cette catastrophe écologique que nous préparons. Et de fait, il a à nouveau, comme dans son encyclique Caritas in Veritate, où il a consacré un long développement sur ce problème de l'environnement menacé, en particulier par les modes de vie induits par notre civilisation profondément industrialisée, a voulu une fois de plus prendre comme thème de la Journée mondiale de la paix, et dans un très beau message que je n'ai pas encore eu le temps d'ailleurs d'étudier en profondeur, mais qui en dit long déjà dans son titre, « Si tu veux construire la paix, protège la création ». Dieu est l'auteur de la création, dans un certain ordre, une certaine harmonie. Au sommet de la création, il y a l'homme. L'homme qui ne doit pas détruire la création, mais qui doit gérer ce jardin qui lui a été mis à sa disposition par le Créateur. Et de ne pas risquer, en détruisant l'environnement, eh bien de se détruire lui-même. Parce que, comme le dit, je crois, le pape Benoît XVI dans son message, il faut absolument réconcilier l'homme avec son environnement et finalement avec l'auteur, qui est à la fois la source de sa vie et l'auteur de la création et l'environnement, qui est Dieu.
Alors justement, une équipe du Secours catholique de Saint-Jean-Pied-de-Port vient de revenir du Burkina Faso, où ils ont été suivre l'installation du forage d'un puits qu'ils ont aidé en partie à financer. Ça s'inscrit aussi dans l'aide au développement et aussi, quand ils nous racontaient leur expérience là-bas, comment les populations de là-bas voient l'eau comme une véritable richesse, une denrée rare.
Tout à fait, et j'y suis d'autant plus sensible que moi-même j'étais curé de paroisse et j'avais jumelé ma paroisse avec une paroisse du Burkina Faso, au nord de Ouagadougou, Guilongou, Zignaré, et que nous avons participé à beaucoup de projets de développement, en effet, pour aider autant que nous pouvions, en apportant une toute petite pierre sans doute, mais pour enrayer un peu cette désertification de cette partie de l'Afrique. Je conclurai en disant que nous pouvons attendre de ce sommet de Copenhague, et c'est ça aussi le message de Benoît XVI, qu'il y ait vraiment un consensus et un véritable accord de tous les États du monde entier, y compris des États-Unis, car vous savez bien que à Kyoto, les États-Unis ont refusé de signer le pacte réduisant justement l'émission de gaz à effet de serre. Et on espère bien que les États-Unis vont faire quand même un pas de plus. Et aussi d'autres pays émergents qui finalement polluent beaucoup dans leur croissance, dans leur développement. Je pense en particulier à la Chine ou à l'Inde.
Avant de passer à la dernière partie de cette émission qui nous permettra de voir dans les jours qui viennent, dans les semaines à venir, les activités de notre évêque de Bayonne-Lescar et Oloron, peut-être un petit mot sur ce qui s'est passé le 12 décembre à Rome.
Ah oui, alors j'étais en effet à Rome avec quelques autres évêques français, nous étions je crois 6, pour participer à l'ordination épiscopale de Mgr Jean Lafitte, qui jusqu'à présent était professeur à l'Institut de la famille Jean-Paul II, au Latran, et qui était vice-président de l'Académie pontificale pour la vie, et qui vient d'être nommé par le Saint-Père secrétaire, avec dignité épiscopale, du Conseil pontifical pour la famille. C'est dire combien cet enjeu qui nous tient à cœur est important, et c'est vraiment important parce que c'est l'homme de la situation. Il a toute la formation requise pour une telle mission. J'y étais pourquoi? D'abord parce que c'est un ami, sans doute, qui lui-même était présent à mon ordination il y a un peu plus d'un an à Bayonne, mais aussi parce qu'il est natif d'Oloron. Et sa famille, il a encore un frère qui est à Oloron, et sa famille est encore attachée. Lui-même, tous les ans, passe un petit moment à Oloron-Sainte-Marie. Donc c'est un fils du diocèse, même s'il était incardiné au diocèse d'Autun, parce que lui-même faisait partie de la communauté de l'Emmanuel, et qui nous honore à travers la confiance qui lui a été faite par le Saint-Père dans un poste clé, je dirais, des enjeux pastoraux de l'Église d'aujourd'hui.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Mgr Marc Haillé. Alors Mgr Haillé, Noël c'est un temps de fête, de joie, mais c'est aussi peut-être un temps dur à vivre pour ceux qui sont en difficulté. Alors vous allez accompagner notamment les détenus dans ce passage, j'allais dire.
Oui, alors donc je célébrerai une messe anticipée de Noël le 22 décembre à la prison de Bayonne, mais aussi à Pau le 24 décembre, donc au quartier des femmes et au quartier des hommes. Et ça me semble important de rejoindre ceux qui sont les plus coupés de la société, même si ils assument aussi des responsabilités qu'ils portent. Mais en même temps, je crois qu'ils sont aussi dans des situations difficiles, souvent non seulement d'isolement et de séparation de leur famille. Et c'est important à ce moment-là que l'Église puisse aussi leur porter un message d'espérance. Le Christ est venu pour tous. Et il nous rappelle que tous nous avons, nous pouvons être en prison dans notre cœur. Et tous nous avons des raisons de demander au Seigneur Jésus de venir nous sauver de nos épreuves, de nos détresses, de nos esclavages, de nos enfermements et aussi de nos péchés, bien sûr.
Où allez-vous célébrer Noël ?
Et je célébrerai donc la messe de minuit, qui aura lieu à minuit d'ailleurs, à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, ce qui me paraît normal pour les grandes fêtes que l'évêque puisse célébrer dans la cathédrale. Et la messe du jour de Noël, je la célébrerai dans la paroisse, enfin dans l'église de La Ressort, qui fait partie de la paroisse
Saint-Sauveur des Robes.
Saint-Sauveur, voilà.
Voilà, donc à La Ressort, le jour de Noël, une question peut-être indiscrète, où allez-vous réveillonner pour le 31 décembre ?
Oula, alors là, je ne me suis pas encore posé tout à fait la question, et je ne sais pas si je réveillonnerai beaucoup.
Alors, plus sérieusement, en début d'année, il y aura aussi des rendez-vous importants pour lancer l'année 2010. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez prévu ou les événements auxquels vous allez participer ?
Alors d'abord, une rencontre que j'ai souhaitée avec l'ensemble du clergé, qui aura lieu à Salis de Béarn, de manière à ce que tout le monde puisse, du Béarn et du Pays Basque, se retrouver, ce que l'on appelait autrefois les vœux du clergé. Bon, à l'occasion de la nouvelle année, une rencontre fraternelle de l'évêque avec les prêtres, que j'espère nombreux, et avec lesquels je reviendrai un peu sur les derniers événements de l'Église et du monde, et puis aussi sur les perspectives d'avenir, bien sûr. Hein, sachant que je vais, comme je l'ai annoncé, même si c'est un petit peu différé par rapport à ce que j'avais annoncé, publier le plus vite possible une lettre pastorale pour partager un certain nombre de réflexions en vue de nous donner ensemble des orientations pour les années à venir dans notre diocèse. J'ai voulu aussi que nous puissions rencontrer à l'occasion de la nouvelle année les membres des équipes d'animation paroissiale qui ont déjà été constituées ici ou là dans le diocèse, et aussi le dimanche 10 janvier, dans l'après-midi, une rencontre que j'ai appelée Vœux des laïcs, mais où tous les fidèles laïcs de nos paroisses seront invités, ça se passera à Orthès, et nous pourrons partager aussi une galette des rois, puisque nous serons dans le temps de l'Épiphanie, et échanger des vœux ensemble.
Alors bien sûr, vous adresserez votre message de Noël à tous les catholiques du diocèse, mais pas seulement, à tous les hommes de bonne volonté.
Oui, je les inviterai, en particulier les catholiques, à considérer les détresses et les épreuves du monde d'aujourd'hui. Il ne faut pas que nos difficultés à nous, nos incompréhensions, nos malentendus internes nous détournent un peu de cette détresse et de ces épreuves qui sont vécues par nos frères et sœurs en humanité dans le monde et la société d'aujourd'hui. J'inviterai donc les catholiques à se ressaisir de cette lettre aux communautés chrétiennes qui a été adressée par les évêques de France, et donc dont je suis co-signataire. La charité du Christ nous presse pour être toujours plus attentifs dans la solidarité envers les hommes et les femmes les plus éprouvés, et en encourageant et en rendant grâce aussi au Seigneur pour tous ceux parmi les chrétiens à travers les organismes caritatifs traditionnels, si je puis dire, comme à travers leur engagement ici ou là dans la société, sont vraiment extrêmement dévoués et généreux sur ce front des pauvretés de notre monde d'aujourd'hui. Et puis, je redirai aux hommes et aux femmes de bonne volonté ce beau message de Noël, hein, cette bonne nouvelle et cette grande joie pour tout le peuple qu'est la naissance de Jésus qui vient vraiment sauver les hommes de leur détresse, et certainement pas de rendre obligatoirement le monde meilleur, mais en tout cas de faire advenir un monde nouveau qui commence dans les cœurs, sûr que Jésus seul, lui, a la clé du cœur de l'homme et peut guérir le cœur et aller donc à la racine de tous les problèmes qui ensuite se complexifient à l'échelle même de la planète, tel que nous pouvons le voir dans le monde entier.
Un message peut-être pour les enfants, c'est aussi un peu leur fête à Noël.
Oui.
Beaucoup attendent le Père Noël ou l'Olentzero en Pays Basque. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Ah ben aux enfants, je leur dis de bien être attentifs, que le cadeau par excellence qu'ils vont recevoir, c'est Jésus, ce nouveau-né, qui leur sera si accessible. Dieu s'est fait homme et s'est fait petit enfant, justement pour ne pas nous effrayer, hein, et rejoindre les plus petits et les plus faibles en particulier. Et que pour eux, eh bien, ils se disent que le plus beau cadeau que Dieu peut leur faire en cette fête de Noël, c'est vraiment Jésus qui s'est fait l'un d'entre eux et qui leur montre aussi, eh bien, le chemin du vrai bonheur.
Merci beaucoup, Monseigneur Haillé. Très bonne fête de Noël à vous. Et très bonne fête de Noël également à votre délégué épiscopal à l'information et à la communication, Olivier Drapé. Merci.
Merci. Merci.
Et bien sûr, très bonne fête de Noël à tous nos auditeurs.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
C'était la rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Une rencontre que vous pouvez réécouter sur le site internet de la radio www.lapourdi.net.